obsession de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe et le père Gouthière sur la contemplation à Rimont le 24 mai 1998, première conférence.
Le seul contact actuel entre Dieu et moi. l'Église, tous ceux qui ont fait un tout petit peu de philosophie comprennent. C'est pas la découverte, c'est l'hypothèse. Mais je crois ça très important. Et tout chercheur sait que c'est la condition première de la recherche. C'est que cette hypothèse soit vivante en nous. Si Dieu existe, il change toute ma vie. Vous pouvez pas dire ça à beaucoup de personnes. Ce sera le langage du fiancé qui cherche que sa fiancée lui dise oui. Tu sais bien, tu sais bien. Si tu me dis oui, toute ma vie est changée. C'est celui qui veut se donner au Seigneur et qui va trouver un lieu pour où il peut se donner. Si vous m'acceptez, toute ma vie est changée. Pour montrer l'importance de ce choix, qui est un choix qui porte sur la finalité. Et c'est bon de revenir à cette hypothèse, puisque l'homme n'est vivant que s'il cherche tout le temps. Et on doit chercher tout le temps. C'est la seule manière de ne pas vieillir. Parce que quand on cherche, notre intelligence considère que tout ce qu'elle sait déjà est relatif. Et qu'on doit aller plus loin. Et on est attiré, on laisse le champ libre à l'attraction de celui qui est le premier qui nous aime. Si Dieu existe, le lien que j'ai avec lui, c'est ce premier amour. Si Dieu existe, il m'a créé par existe, mon exister n'ajoute rien à ce qu'il est. La gratuité dans un monde qui ne sait plus ce que c'est. Hein. Et ça, je peux le poser, et c'est très bon de se poser ça, parce que ça me montre que le cordon ombilical à l'égard du Créateur qu'une mère, qui est plus qu'un père, qui est celui qui est source de mon être, ne peut être que mon exister actuel. Comme pour mon voisin. Mais communiquer dans l'amour et dans un amour est purement gratuite. C'est très important de comprendre ça. Je disais ça autrement. Je disais, cherchons la signature du Créateur en nous. D'une autre manière. Si Dieu m'a créé, il y a sa signature quand même en moi. Je suis de lui. Où est sa signature? Les grands maîtres du Moyen-Âge signaient, non pas par leur nom, mais une petite signature. Le maître qui signe en mettant un petit oiseau. C'est beau ça. Il y avait un Fribourg comme ça, tableau du Moyen-Âge. Il y avait la marque, la signature. C'est beau. On signe symboliquement. Dieu ne signe pas symboliquement. Parce qu'il est, s'il existe, l'amour parfait. très importante pour me montrer que la signature de Dieu n'est pas logique. C'est pas logique, la création. C'est sage. Et ça ne peut pas être autrement. Là, je suis dans une attitude, voyez, critique, de réflexion critique qui débute le terrain. Dieu n'est pas le camarade d'à côté, quoi. Non, c'est impossible. Si Dieu existe, il est Dieu. C'est-à-dire, il est premier. Premier dans l'être, premier dans la bonté, premier dans l'amour. Or, découvrir l'existence de Dieu, c'est symboliquement découvrir le premier rayon de soleil, le premier rayon du soleil qui se lève. C'est ça. Pour mon intelligence, ça ne peut pas être autre chose. Si Dieu a créé des esprits, l'esprit n'est pleinement lui-même que quand il découvre son Père. Or, selon l'hypothèse, Dieu ne peut être qu'esprit. S'il est premier, toutes les réalités physiques sont relatives. Elles ne sont pas Dieu. Elles sont corruptibles, elles ne sont pas Dieu. Oui, je crois que dans notre monde, c'est tellement important de pousser ce que Merleau-Ponty disait avec tellement de force. Et c'est pour ça qu'il disait, Merleau-Ponty, je n'aime pas parler à un catholique parce qu'il sait. On voit très bien ce que ça veut dire. Un catholique dit, mais oui, mais c'est évident qu'il y a l'âme spirituelle. Mais c'est évident, quoi. La métaphysique, mais c'est évident. On voit très bien cette attitude-là. Ça l'énervait. Et le dernier, Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, a dit, mais l'être, la métaphysique, c'est l'être sauvage. C'est-à-dire, c'est ce qui est caché. Ce qui est le plus difficile à saisir, c'est pas évident. Aujourd'hui, dans le monde scientifique dans lequel on est, dans le monde de la phénoménologie dans lequel on est, c'est pas évident. Ceci est. C'est pas évident. Quand j'assistais à la Sorbonne et aux danses de thèse des frères de Saint-Jean, la question venait tout le temps. Il y en avait un, entre autres, au jury. Je m'étais exprès mis bien devant. Qui posait ce question, mais je m'en dis qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est. Quelqu'un qui a fait de la philosophie toute sa vie et qui se demande si ceci est dictat de ceci. Oui, c'est en sens qu'on dit de faire de la philosophie, c'est vous perdre la tête. C'est tellement évident. En arrivant ici, je me suis appuyé sur la table. Ah, peut-être que cette table est purement imaginaire. Et que quand même, quand je serre la main à quelqu'un, c'est peut-être un fantôme. Et moi, je suis peut-être un fantôme. Après tout. Vous voyez, revenir aux réalités les plus simples. Parce que quand vous faites cuire un œuf, est-ce que vous vous posez de savoir est-ce que cet œuf, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est réel, cet œuf? On va voir. Peut-être que en le goûtant, vous verrez si c'est un œuf. En le mangeant. Peut-être. sens réaliste. Ils sont tous réalistes, mais le premier, les soucoupes volantes, existent-elles ou pas? Je suis ça très près. En critique philosophique, il n'y avait jamais le toucher. Jamais le toucher. Il y avait le bruit, il y avait la vision. C'est pour ça que Jésus dit à Thomas, mets ta main là, dans la blessure du cœur. Oh, touché. On a besoin de revenir à ce réalisme-là et à cette hypothèse. Si Dieu existe, et là, Saint Anselme, qui a réfléchi là-dessus à cause de son petit novice. Son petit novice, dit, chaque fois qu'il voulait faire oraison, il se mettait, mais est-ce qu'il existe? Alors il est venu dire ça à son père. Alors il s'est mis à écrire dans l'hypothèse. Lui ne fait pas. On a la critique depuis Saint Anselme. Alors fais attention. Mais c'est très juste. Si Dieu existe, il peut être comme amour. Substantiel. En lui, l'amour est tout. Et l'acte de création est un acte de pure gratuité. C'est magnifique du reste. Vous voyez, c'est au fond cette hypothèse qui me fait comprendre que si je découvre que Dieu existe, mais immédiatement, je serai le pire des imbéciles. Ce lieu est saint. Et je serais le pire des imbéciles de ne pas le contempler. Parce que c'est la seule réalité qui demeure éternellement. Et je peux être lié à cette réalité. Immédiatement me faire découvrir sujet, il échappe à l'analyse complètement. Je ne peux pas le saisir avec des appareils les plus perfectionnés qui soient. Parce que si Dieu existe, il est absolument simple. Je ne peux que le contempler. Toute connaissance vraie de Dieu ne peut être que la contemplation. Vous voyez, là, je suis dans l'attitude de celui qui montre l'importance capitale de cette recherche et qui le rappelle à tous. La vie est changée si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Et si Dieu existe, je dois tout faire. Et je ne peux que le contempler, parce qu'il me dépasse. Alors quel est le tremplin le plus magnifique, le plus merveilleux pour découvrir son existence? Si Dieu existe et qu'il est mon créateur, il est celui qui donne un sens à ma vie. Puisqu'il change toute ma vie. Donc, il ne peut être que ma finalité. Il ne peut être que celui qui transforme tout en moi. Et d'esprit. Sa signification. J'ai dit ça à des gens qui me disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Je dis, qu'est-ce que ça signifie pour vous Dieu? Alors il m'a répondu, rien. Ah, alors vous vous amusez de parler de rien. Alors là, il a commencé à trembler. Si ça signifie rien, mais alors pourquoi en parler? Vous perdez du temps. Ayez le courage d'être un homme qui, quand il parle, sait que ses mots ont une signification. Vous voyez, il faut de temps en temps faire comme Socrate. Je l'ai fait plusieurs fois à Fribourg. Je pouvais le faire à Fribourg. Je voyais des conférenciers qui employaient des mots extraordinaires dont ils ne savaient même pas le sens. Et je vais excuser de dire, j'aime beaucoup Socrate. Alors, pour le mot Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on a le droit? Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de déblayer le terrain. Une grande purification. Oh, je mets la négation en premier lieu. Et j'ai cherché pendant longtemps quel est le signe de la modernité. Oui, comme je cherche la signature de Dieu, je cherche le signe de la modernité. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai découvert que la modernité, c'était un désordre. Ancien, c'est l'affirmation est première, la négation est seconde. À partir de Occam, un théologien du XIVe siècle, la négation est première et l'affirmation repose sur la négation. Donc elle est branlante. Elle devient hypothétique. Et le monde vit sur une hypothèse. Dieu n'existe pas. Alors, si nous voulons nous être dans la vérité, prenons le bulldozer métaphysique. L'hypothèse la plus importante de toute ma vie, est-ce que Dieu existe? Dieu, dont le mot n'est pas philosophique, il est religieux, comme l'âme, faut pas l'oublier. Ce sont des mots qui ont un halo religieux. Et si je suis intelligent, je les reçois comme ça. Et je me pose la question, ce Dieu qui est communiqué par les traditions religieuses, existe-t-il? Et je serais un insensé, littéralement, un insensé. Donc un gosse qui continue d'être gosse. Et qui veut rester un insensé, si je ne cherche pas pour savoir s'il existe ou pas. Si je suis croyant, j'ai la grâce de dire qu'il existe. Mais je vis dans un monde qui n'est plus croyant. Et donc, mon devoir premier, c'est de voir si mon intelligence peut atteindre existait de Dieu. Selon les traditions religieuses que je respecte, Dieu, c'est l'être premier, l'absolu, absolument simple, pur esprit, pur amour. Et comme ce que je vous disais hier, les réalités qui me dépassent, je ne peux les atteindre que dans un halo d'amour. Je ne peux donc atteindre Dieu que si l'amour, l'amour spirituel, pas la passion, pas l'imagination, est là pour pousser mon intelligence jusqu'au bout. Tout ça repose sur la critique. Et si vous avez des objections par rapport à cela, notez-le. Et pour moi, il n'y a pas d'objection là-dessus. C'est net. On est très fort en critique aujourd'hui. Très très fort. C'est pour ça qu'on aime tellement la négation. C'est la grande découverte de Sartre. Vous savez bien. Sartre est celui qui a écrit de la manière la plus intelligente sur la négation. L'être est le néant. Le lire, la plume à la main, comme on lit le livre Delta d'Aristote, comme on lit le livre Lambda d'Aristote. Et alors on voit le sophisme, gros, gros, gros. Mais c'est vrai, c'est pour moi un des livres les plus importants. philosophes d'aujourd'hui, pour avoir lu ces rasoirs, pour beaucoup de courage. Eh bien, petit slogan, condamné quand l'être et le néant est fasciste, juste après la libération, qui courait à Paris, partout, on va chez le boulanger. Qu'est-ce qu'on voit ? Tout près de la caisse, l'être et le néant. Quand même. 15 jours après, un autre boulanger. L'être et le néant. Caché, en dessous. 3e fois encore. Alors, quand même, on interroge. On dit au boulanger, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous lisez l'être néant, vous ? Vous qui vendez du pain. Vous lisez l'être néant. Pour néantiser votre pain. Alors, le boulanger répond, en bon artisan, oui, ça pèse 500 grammes. Et après la guerre, on nous a mobilisé, pendant la guerre, on a mobilisé tous nos poids qui étaient faits de cuir, de plomb, de matière réelle. Alors, l'être néant, j'ai trouvé ça merveilleux. Hein. Oui. C'est vrai, ça, son poids d'or. Pour la modernité, le primat de la négation. Alors, vous voyez, c'est le désordre premier d'une intelligence vivante. La première chose, c'est qu'on affirme. On se réveille. Ah, j'ai dormi. Quand vous êtes dans un cauchemar, le cauchemar de votre jeunesse. Ah, tout ça c'est fou. Le gros chien qui me poursuivait, c'est fou. Je me réveille, je tâte autour de moi. C'est vrai. La réalité. On est dans un grand cauchemar. Et on se réveille. Je reprends alors tout. Mon intelligence, si elle cherche, si elle désire chercher la vérité, c'est de reconnaître que l'affirmation est première. Je vis dans un monde réel. Et la négation est seconde. Vous voyez, c'est la première loi de ma vie intellectuelle. Je dis bien loi, c'est pas un principe. Un axiome. Et on est arrivé à inverser l'autre. Qu'on demande à Occam, théologien franciscain, c'est d'autant mieux. Qu'est-ce qui est premier ? Intelligo. Et Descartes dira, quelques siècles après, cogito. Mais comme il est franciscain, intelligo et amo Socratem. Et j'aime Socrate. Il met l'intelligence et l'amour. Mais son intelligence, il dit pas la réalité, il dit pas ceci est. Non. C'est son intelligence qui présuppose la négation. Qu'est-ce qui est premier ? C'est que je pense. Qu'est-ce qui est premier ? C'est que j'aime. Vous voyez, et c'est pour ça qu'après cela, il vient juste après Thomas d'Aquin. Si Thomas d'Aquin était né après Occam, ça aurait été du beau. Ça aurait été merveilleux. Mais il n'y a pas eu Thomas d'Aquin après Occam. Alors, il y a eu Descartes. Et de Occam, passant par Descartes, passant par Luther, passant par Sartre, le primat de la négation. Alors vous voyez, le désordre fondamental de ma vie intellectuelle. d'où l'application, et je l'ai entendu de mes propres oreilles. J'aimais faire des retraites au terminal, pour voir l'évolution, le changement. Et disant ça, une étudiante qui était à 15 jours de son bachot me dit, mais père, pour moi, c'est net, la haine est première. C'est pas l'amour, c'est la haine. J'aime que pour éviter la haine. Mais la haine est première. Dans ma vie, la haine est première. On a discuté fort, alors vous comprenez ce moment-là. Conséquence, on ne peut plus avoir confiance. Alors, on néantise Dieu pour qu'il n'y ait plus que l'homme dans sa négation. Alors, ceci, c'est très important pour comprendre que dans notre monde aujourd'hui, où la phénoménologie hegelienne domine, il faut me mettre le plus proche possible de cette philosophie pour la toucher. Le primat de l'expérience intérieure. Parce que j'ai deux espèces d'expériences, celle du cauchemar et celle de mon réveil. Vous avez tous eu ça et vous continuez peut-être de l'avoir. Vous avez l'expérience du rêve éveillé et l'expérience de la réalité. Non, il faut mettre à travailler. L'expérience externe qui implique le toucher, l'expérience interne qui implique l'amour que j'ai. Connaissance que j'ai, cogito, de Descartes. Ce qui est merveilleux dans l'amour d'amitié, c'est que cette expérience implique les deux. J'aime, j'ai choisi mon ami. Et mon ami, il existe. C'est que je t'aime, tu peux crever, ça n'a pas d'importance, je t'aime. Si je dis ça à mon ami, je supprime l'amitié. Jamais vous diriez ça. Un véritable ami, ah, alors vous êtes vrai dans cet amour d'amitié et vous redressez tout. Je t'aime. Je meurs avant toi, parce que je sais pas ce que je ferai. Et vous voyez, la réclame de l'euthanasie, c'est très rare que je regarde ça, mais là je voulais, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai vu, deux vieux, qui s'aiment tendrement, disent quand même, faut pas que tu partes avant moi. Et l'autre répond, il faut pas que tu partes avant moi, que tu partes avant moi. Alors, quel est le moyen d'éviter ce dilemme? On peut partir tous les deux en même temps. On va prendre des cigules en même temps. Mais, hein, c'est pas bête, hein, comme on réclame. Si j'aime vraiment quelqu'un, parce que je t'aime, c'est toi. Il y a quelque chose en toi qui demeure. Ce n'est pas le plus grand acte d'amour que je fais pour quelqu'un de dire « Ah, je t'aime tellement que je ne supporterai pas ton absence. » Non, je t'aime parce que tu es capable d'exister indépendamment de moi. Autrement, on fait de l'amour une colle. C'est collé, colle de fer. Vous voyez, je dis ça parce que c'est capital, ça. Ce redressement de notre intelligence qui met le primat sur l'amour, l'amitié, la connaissance de l'existence de mon amour. Là, il y a une possibilité pour nous de retrouver un réalisme. Et c'est la grandeur de cette expérience. C'est mon expérience personnelle la plus forte et la plus grande, de découvrir l'existence de mon ami et de découvrir sa personne. Il y a une intériorité en lui. Et donc, si je veux découvrir l'existence de l'être premier, c'est bien par l'amour. Et saint Thomas est d'accord. C'est nous qui avons subi des tas de choses et qui ne voyons plus ça. Saint Thomas dit que ce n'est que par la cause finale que je peux découvrir l'existence de Dieu. Or, vous découvrez la causalité finale par l'amour, l'attraction du bien absolu sur moi. C'est donc dans cette découverte de l'amour que je peux découvrir l'existence de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.